des Hervé et qui a été prononcé par Benoît. Merci beaucoup. Et je me fais l'interprète aussi de l'Assemblée de Glun pour vous communiquer leurs salutations fraternelles. Quelle joie d'être ici. Ça fait je ne sais pas combien d'années que je vous ai visité, mais c'est vraiment une joie, et en particulier de voir des jeunes qui s'engagent. Ça, c'est la récompense que le Seigneur me donne. Et puis de revoir ma sœur Hélène, une collaboratrice précieuse à Genval. Comment vivre les défis de la vie? Comment vivre chaque jour, quel que soit le chemin que Dieu permet que nous suivions? En rentrant, certains m'ont salué en me fêtant, en m'accordant la bonne et heureuse anniversaire, pas année, anniversaire. Voilà. Quand j'avais 70 ans, je me disais, voilà, il est tout pour moi, et moi je suis zéro. Aujourd'hui, 7 ans après, 77, je me demande où je suis encore, parce qu'il est tout pleinement pour moi. Même malgré mes faux pas, la surabondance de Dieu est là pour me soutenir et m'encourager. Et comme je disais hier à mes enfants, à l'âge où je suis, ce n'est pas un terminus, ce n'est pas un arrêt, mais je suis prêt à relever les défis avec Dieu pour poursuivre la route jusqu'au moment où il m'enlèvera ou jusqu'au moment où je le rejoindrai dans la gloire. Pas un terminus, mais chaque jour une direction à prendre. Un défi à relever avec lui. Et c'est ce que je voudrais vous partager avec vous, des défis que Dieu place sur notre route. Et pour cela, nous allons lire trois textes dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, qui a priori ne semblent pas être en lien l'un avec l'autre, mais voilà, je les ai découverts récemment et permettez de les partager avec vous. Il se le trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Évangile de Matthieu au chapitre 16. Avant de les lire, permettez-moi de placer le contexte. Jésus vient de dire à ses disciples qu'il faut qu'il aille à Jérusalem, qu'il allait mourir, qu'il allait souffrir, qu'il allait ressusciter le troisième jour. Et nous allons lire des textes de la parole de Dieu qui vont s'établir sur 6 jours de la semaine. Et nous savons que quand Pierre entend les paroles de Jésus, Pierre dit au Seigneur, non, pas ça, hein, je ne veux pas que tu meures. Et Pierre entend certaines réprimandes de la part de son Seigneur en disant, Pierre, tes pensées ne sont pas celles de mon Père, ni celles de la volonté pour votre salut. Et nous allons maintenant lire, je vous invite à lire l'évangile de Matthieu au chapitre 16, et nous lisons au verset 24. C'est ici que Jésus va proclamer le défi pour ses disciples. Ce que veut dire être disciple de Jésus et le suivre. Alors qu'il vient de dire, moi je vais passer par la mort et je vais ressusciter. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Jésus montre comment imiter le Maître dans le chemin de la vie ici-bas. Quelques questions certainement jaillissent dans l'esprit des disciples, questions qui sont les nôtres aujourd'hui, comment est-ce possible? Et pour cela, pour les encourager à relever le défi dans un chemin d'obéissance, non pas une obéissance d'obligation, mais une obéissance d'amour, une obéissance de cœur, comme on l'a dit, une obéissance de renoncement, Jésus va révéler à ses disciples la gloire qu'il a pour eux. Et nous continuons la lecture au verset 27. J'aime bien parce qu'il commence par le petit mot « car ». Alors, je ne sais pas s'il y a des institutrices parmi nous. Oui, il y en a, certainement. Donc, j'espère ne pas me tromper en disant que le mot « car », c'est une conjonction de coordination qui relie des effets à des preuves. OK. Si je me trompe, excusez-moi. Et nous lisons ainsi le verset 27. Et nous allons voir deux fois le mot « fils de l'homme ». Car le fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Il n'est pas question ici du salut, mais il est question de récompense dans le chemin d'obéissance, d'amour, dans les défis que nous allons pratiquer, dans les bonnes œuvres que Dieu aura préparées pour nous et dans lesquelles nous allons marcher. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Et c'est alors que Jésus continue, pour confirmer cette parole, Jésus va soulever un voile, un coin du voile, et prendre avec lui trois disciples, pas tous, trois disciples, pour qu'ils soient témoins de cette gloire du Fils de l'homme. Et nous continuons la lecture dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1er. Épisode connu sous le nom de la montagne de la Transfiguration. Renoncer, car vous voyez la gloire de Dieu, et Jésus soulève un coin du voile. 6 jours après, donc on avait bien dit une semaine, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur la haute montagne. Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui, avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Oh Seigneur, oh qu'il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent, les disciples levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question, mais pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Là s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Nous prions. Seigneur, qui suis-je devant toi pour faire comprendre cette parole, pour l'expliquer? Je m'en remets au soutien de ton esprit, à ton enseignement dans mon cœur, dans mes pensées, pour que toi-même viennes d'abord m'instruire, pour que ce qui sortira de ma bouche ne soit pas mes paroles, mais qu'elles soient les tiennes, afin de nous encourager dans le chemin, à poursuivre la route, à relever les défis avec toi pour la seule gloire de ton nom. Enlève, Seigneur, toute distraction de nos pensées et que nous soyons concentrés tels nous l'avons vu pour ne voir que toi, Seigneur Jésus, t'entendre toi seul parler. Fais-nous du bien pendant ce moment. Au nom de Jésus, nous te le demandons, Père. Amen. Suivre Jésus, relever des défis, c'est possible parce qu'il y a le Fils de l'homme qui est glorifié et trois disciples ont été témoins de cette gloire. Quelle certitude, bien-aimé, pour l'enfant de Dieu, quand le Saint-Esprit vient appuyer ses vérités dans nos pensées, dans nos cœurs. Le Seigneur est proche. Bientôt, nous le verrons face à face. Je verrai mon Rédempteur avec mes propres yeux. Et chacun avec ses propres yeux, nous allons voir notre Rédempteur glorifié dans sa splendeur. Et nous allons célébrer, comme on l'a chanté, la gloire de sa grâce. Nous ne comprenons pas pourquoi Dieu m'a tant aimé, mais je sais qu'il m'a sauvé et qu'il me destine à la gloire avec lui. Un jour, les rachetés du Seigneur régneront avec lui. Un jour, tout genou fléchira devant lui. Un jour, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Un jour, toute créature proclamera la gloire du Seigneur Jésus. Tout sera lié, tant sur le ciel que sur la terre. Tout sera lié pour reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu éternellement béni. Mais pour nous, qui sommes sur la terre, qui avons ces certitudes dans nos cœurs, qui proclamons que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur, qu'il est le Roi des Rois, qu'il est l'Époux que nous attendons tous les jours, ce n'est pas facile de relever les défis. Mourir à soi, pour que mon Jésus prenne toute la place, pour que moi je diminue et que lui grandisse. Il n'y a plus que moi, mais lui qui vit sa vie en moi, afin que ceux qui me voient vivre ne me voient plus moi, mais voient au travers de moi le Christ bien-aimé. Accepter de tout perdre pour suivre Jésus-Christ, dans le but de tout gagner pour lui et en lui. Mais le tout gagner n'est pas pour maintenant. Que signifie donc tout perdre? Pour un avenir lointain? Non, pour maintenant. savoir mettre les bonnes priorités dans notre quotidien. Avoir ce renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu et y marcher. Faire les bons choix dans ma vie. Quelques réflexions sur tout perdre. Il fut un temps où, avec Hélène, nous étions à Genval, dont on va fêter, petite publicité en passant, hein, dont on va fêter les 75 ans de l'existence de Genval. C'était dur pour moi et pour Hélène de faire le deuil, de passer le relais. Mais voilà, il faut accepter que Dieu utilise pour un temps ses serviteurs, ses servantes, et qu'il a soin de prendre soin de chacun de nous et les placer dans un autre ministère. C'est cela aussi, faire renoncer à soi. C'est accepter qu'un frère est supérieur ou une sœur est supérieure à moi. Petit exemple, quand on est au début d'un ministère, je sais combien prend du temps pour préparer une prédication. Et je venais de terminer la prédication à Pâturage, je suis à Glen maintenant, hein, mais je parle, voilà, et puis j'avais passé énormément de temps sous le regard du Seigneur dans la prière pour préparer. Et dans la jeunesse qui était mienne, voilà qu'à la fin de la prédication, il y a un cher frère, 80 ans, qui se lève, qui souligne une pensée merveilleuse, 5 mots, en annonçant un dernier chant. Et voilà que toute l'assemblée va vers ce frère pour le remercier. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Voilà, c'est accepter cela, que le frère est plus grand que moi et que j'ai été un outil, un moyen pour préparer le cœur pour que les 5 mots de ce frère soient utiles. Pour certains, c'est le rejet de leur famille, c'est la moquerie, c'est la prison, c'est la mort à cause de leur foi en Jésus-Christ. C'est accepter d'être un arriéré dans ce monde qui propose des valeurs autres que celles du Seigneur Jésus. C'est être cet arriéré pour proclamer la bonne nouvelle du salut. C'est renoncer parfois à une vie professionnelle excellente pour s'engager à la suite de Jésus et le servir. C'est se priver parfois de certains plaisirs, car je décide de donner avec joie, non pas le superflu de mon argent, mais de donner comme un sacrifice spirituel pour l'œuvre de Dieu. C'est accepter qu'ici-bas, ma vie est un combat spirituel. J'ai constamment à faire des choix dans ma vie. C'est accepter de consacrer du temps pour le prochain qui vit la misère et qui habite à côté de chez moi. C'est accepter de rester dans l'ombre pour passer les intérêts de Dieu en priorité. Quelques exemples marginaux pour détendre l'atmosphère. Les autres sont à table avant moi. Il faut accepter qu'ils choisissent. J'aurais préféré, moi, la ratatouille de Scarole. Mais voilà qu'ils ont décidé la pizza. Voilà, c'est accepter cela. C'est accepter sans colère. Ce n'est plus mon cas. Mais c'est accepter sans colère que j'attends depuis un quart d'heure que la salle de bain se libère le matin. Oui, c'est renoncer à cette colère. Chérie, quand est-ce que tu auras fini? C'est accepter qu'on est à la veille des vacances, que c'est ma femme ou mon mari qui décide de l'endroit où on va aller passer quelques jours de vacances. Alors j'aurais voulu aller vers le nord, maintenant on va vers le sud. Ah bon. Voilà, et on pourrait continuer quelques exemples, mais il faut avouer que ce n'est pas facile, ni valorisant, de mourir à soi, de renoncer à soi, jour après jour, semaine après semaine. Je ne connais pas quel est votre sentiment sur ce renoncement, mais personnellement, j'ai hâte que ce renoncement s'arrête, que ce combat finisse. Vivement que Jésus mette fin, que Jésus vienne chercher son Église, que Jésus entre dans son règne et pour que je voie sa splendeur, sa gloire. Mais voilà, la réalité de la vie doit affronter durant des jours ces renoncements. Question que je me suis posée. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ou qu'est-ce que Dieu pourrait me dire pour que ce renoncement devienne plus aisé, plus facile? Qu'est-ce que cela changerait dans ma vie si je pouvais entrevoir, anticiper ce moment de la gloire de mon Seigneur à laquelle je vais participer? Est-ce que cela m'aiderait à perdre de moi pour le gagner lui et le suivre? À ce que moi je diminue pour qu'il puisse grandir? Est-ce que je peux comprendre en le contemplant dans la gloire que le poids de gloire à laquelle il me destine n'a rien de comparable avec parfois le poids du renoncement et des souffrances que je suis en train de relever ici-bas? Est-ce que cela m'aiderait? Pas évident. Aujourd'hui, vous dites, oh oui, on est en train de le dire. Mais tournez quelques feuillets de l'évangile de Matthieu, et j'ai noté au chapitre 19, Pierre vient d'entendre que Jésus parle à un jeune homme riche, qui doit, « Seigneur, moi je respecte la loi, oui, mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter? Ne t'attache pas aux richesses de ce monde. » Et les disciples, en entendant cela, « Seigneur, on a tout laissé pour te suivre. » C'est Pierre qui prend la parole. « Voici, nous avons tout quitté. » Et nous t'avons suivi. Qu'est-ce qui va nous arriver? Revenons à notre situation. Alors, pour les encourager dans ce chemin d'obéissance, de ce combat de renoncement, Jésus révèle à ses disciples la gloire à venir du Fils de l'homme. La gloire que son Père lui a donnée. Lui, le Fils de l'homme. Je ne parle pas du Fils de Dieu. Nous allons contempler la gloire du Fils de Dieu. Mais la gloire du Fils de l'homme, il va la partager avec nous. Il y a des conditions dans la parole de Dieu pour cela. L'Épître à Timothée, l'Épître aux Romains nous dit, voilà, si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Et c'est alors que Jésus, comme on l'a lu, lève un coin du voile. Une semaine après, Jésus est assis physiquement. Si Jésus était assis physiquement parmi nous, est-ce que nous le reconnaîtrions? Lui qui n'avait pas un aspect pour qui attire notre regard, il était semblable à chacun de nous. Et pourtant, nous avons lu que les disciples l'ont reconnu. Pierre, Jacques et Jean sont donc invités à suivre Jésus sur cette montagne de la Transfiguration et ont le privilège d'être les témoins de la gloire du Fils de l'homme. L'expérience les a tellement bouleversés que Pierre, en écrivant dans sa deuxième lettre à Pierre, bien sûr, hein, qui porte son nom, dira, écoutez, ce ne sont pas des fables, hein, ce n'est pas une vision que j'ai eue, mais c'est quelque chose de réel. J'ai vu que le Fils de l'homme a reçu du Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre cette voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Qu'ont vu ses disciples? Qu'ont-ils vu? Trois personnes qui se parlaient entre elles. Il y avait Élie, il y avait Moïse, Élie et Jésus. Ils se parlaient entre eux. Et dès que ces trois personnes sont présentes, une seule est transfigurée, c'est celle du Seigneur Jésus. Il nous est dit que son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Comment ces trois disciples ont-ils reconnu Moïse et Élie? Comment? Le texte ne dit rien. Ni leur visage, ni sur leurs vêtements, ni sur leur histoire, ni un fait marquant de leur histoire, ni sur le sujet de leur conversation entre eux, rien. Et c'est alors que Pierre prend la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon qu'on soit ici. Si tu le veux, je vais dresser trois tentes. » Son désir est de prolonger ce moment lumineux, glorieux. Il n'a pas saisi que c'était un moment éphémère où il entrevoyait les choses à venir. La nuée, qui parle bien sûr de la présence glorieuse du Seigneur Jésus, de Dieu lui-même, et que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Pour Jésus, il y a son rayonnement. Si pour Moïse, quand il a passé du temps sur la montagne du Sinaï, il est encendu, le visage rayonnait. Ok, il a dû mettre un voile sur le visage. Pensez-vous que pour Jésus, son rayonnement était en rapport avec son intimité avec Dieu? Non. Parce qu'il est Dieu lui-même. Hébreux chapitre 1, verset 3, en parlant du Seigneur Jésus fait homme, il est le reflet, le rayonnement de sa gloire, de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de la substance du Père. Il est un avec le Père. Et sa gloire est la gloire de Dieu révélée dans l'homme Christ Jésus. Pierre, Jacques et Jean ont assisté à ce rayonnement. Je ne sais pas s'ils ont dû se mettre quelque chose sur le visage pour empêcher d'être éblouis, mais enfin, voilà. Voilà. C'est une situation, moi j'aime bien fermer parfois les yeux et de rentrer dans cette contemplation de cette scène merveilleuse où l'on voit le visage de Jésus qui rayonne, où son vêtement est blanc et resplendit, où une nuée est en train de les couvrir et où de cette nuée sort la voix du Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon affection, tout mon plaisir, écoutez-le. » Il nous est dit qu'ils ont alors levé les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Avec les nouvelles techniques, c'est facile hein, aujourd'hui. On regarde à la télévision du sport, on voit là un match de football et puis tout d'une fois, il y a le zoom qui vous dirige sur un joueur de football. J'ai l'impression qu'on est face à cela ici. Il y a Moïse, il y a Élie, qui sont là en présence de Jésus. Il y a le zoom de la parole de Dieu qui vient mettre l'accent sur la personne du Fils bien-aimé de Dieu. Moïse et Élie disparaissent. Moïse et Élie sont dès lors inférieurs à Jésus. Pourtant, la loi est apparue du temps de Moïse sur le mont Sinaï. Une loi qui énonce « Celui qui pêche doit mourir ». Et du temps de Jésus, on vient lui amener une pécheresse. Et on veut l'accuser au nom de cette loi. Que va faire Jésus? Il va aussi écrire. Mais il écrit sur le sol. Je ne sais pas ce qu'il a écrit. Mais ma conviction, c'est qu'il a écrit grâce. Si t'es péché, va, ne pêche plus. La grâce t'est donnée. Quelle différence, bien-aimé. Qui est supérieur? Jésus est supérieur à Moïse. On pourrait parler de Élie aussi. De prophète, bien sûr. Élie qui prépare le chemin d'Élisée. Jean-Baptiste, puisqu'à la fin de notre parcours de lecture, on dit qu'ils ont compris qu'ils parlaient de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui prépare le chemin du Seigneur Jésus. Jean-Baptiste qui est mort avant Jésus. Jean-Baptiste, c'est l'Élie. Et Jésus, c'est l'Élysée bis. J'ai été rechercher un texte, il y en a plusieurs. Hein. Quand Élisée, nous voyons cela, il a fait 100, pour nourrir 100 hommes, il a pris 20 pains. Il y a eu du reste. Vous me direz combien Jésus a utilisé de pain pour nourrir bien plus que 100 hommes. Alors, si Jésus n'est pas plus grand qu'Élie, si nous proclamons qu'il est plus grand qu'Élie, de sorte que les disciples ne voient que Jésus seul, et comme il parlait, celui-ci est mon fils bien-aimé, voilà que la voix se fait entendre, c'est une exhortation, écoutez-le. Écoutez Jésus pour qu'il puisse grandir en vous et que vous puissiez diminuer. Il faut écouter Jésus. Écouter Jésus, bien-aimé, ce n'est pas un sujet de débat entre nous. Hein. C'est un ordre que Dieu donne à son peuple. Écoutez Jésus pour pratiquer sa parole. Ce serait, bien-aimé, absurde de ne pas l'écouter. Ici-bas, il faut apprendre à le laisser grandir par l'écoute et l'obéissance à sa parole. Accepter de tout perdre et d'obéir. Mourir à soi, difficile. Je suis tenté, comme plusieurs d'entre nous. Mais dans sa bonté, Dieu permet à ses disciples, et à nous en particulier, de contempler au travers des Écritures la gloire qui nous attend. C'est comme si, dans un combat spirituel, Jésus nous révélait la finalité de la victoire. Alors, bien-aimés, fixons les regards sur Jésus glorieux. Contemplons-le au travers des Écritures. Et comme le dit la parole de Dieu, nous serons alors transformés de de gloire en gloire par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et nous le reflèterons. Je n'aime pas parler de moi, mais c'est un témoignage qui tourne à la gloire de mon Seigneur. Je suis allé à Nice. C'était à Pentecôte. J'étais invité à la prédication d'un mariage là-bas à Mandelieu. Et bien sûr, il y avait de la famille de la personne qui arrivait à l'aéroport de Nice. 30 kilomètres, donc je faisais parfois un aller-retour pour aller chercher la famille et aussi préparer le menu qui était offert aux invités. Je prends en charge une personne et voilà, d'office, sans savoir qui je suis, sauf que je suis pasteur, dit-elle, et elle me dit, donc tu vas arrêter la bonne ambiance du mariage avec tes bondieuseries. Okay. Et je sais, enfin j'ai appris que cette personne était un peu sanguine. Donc je reçois cet ordre de sa part. Surtout ne parle pas de Dieu ni de Jésus. Sinon, je monte comme du lait. Pendant 3 jours, j'étais comme ça. Seigneur, quel défi! Quel défi! Il y aura devant moi 70 personnes qui seront attablées puisque la prédication se faisait pendant le repas. C'était prévu ainsi. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? C'est lui qui a parlé, parce que je n'ai jamais parlé de Dieu ni cité le nom de Jésus pendant cette intervention. Jamais. Je parlais de celui qui est la source de l'amour, de celui qui est la source de la joie, de celui qui unit. Jamais je n'ai parlé du nom de Jésus. Tout le monde était... Voilà, j'étais dans l'interaction, comme vous me connaissez parfois, hein, je suis dans l'interaction avec le public, enfin des participants, et lui était au fond de la salle. Une heure après, il s'approche de moi, et il me dit, « Daniel, je te remercie. Oh. Je te remercie de ne pas avoir cité le nom de Dieu de Jésus. Mais tu me l'as montré. Quel plus beau témoignage, bien-aimé. Tu me l'as montré. Tu n'as pas parlé de Jésus, mais tu me l'as montré. Il m'a donné son adresse mail. Oh, communique. Ah, je lui ai dit, il faut beaucoup de foi pour être athée. Oui. Et je crois fermement, bien-aimé, que quand on peut rentrer avec foi, avec assurance, dans les défis de la vie, il y a des victoires qui sont remportées. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse richement dans le chemin de la vie pour relever les défis à la gloire de celui qui nous a tant aimés. Il nous a tant aimés. Allez, il nous aime encore. Il nous aimera toujours. Qui nous séparera de cet amour? Personne.